Ah, juste avant qu'on se laisse entraîner, je pense qu'il y avait comme un air de samba dans cette musique-là. Puis si on avait laissé Mathieu nous en donner une minute ou deux de plus, là, on partait pour l'après-midi. Voilà. Alors, on revient à nos sujets du jour. Je suis en compagnie de Mme Lynne Dubé. Bonjour, Mme Dubé.
Bonjour, Monsieur Beauregard, ça va bien?
Bonjour. On va se vouvoyer, mais on va garder le prénom Lynne. Vous êtes chef de programme en informatique adaptée chez INCA. Vous êtes chroniqueuse technologie au Canal M aujourd'hui.
Eh oui.
Et vous avez un parcours intéressant, juste quand même pour dresser le décor. Handicapé visuel depuis la naissance, vous utilisez le braille, les effets grossissants, d'où les synthèses vocales, ainsi de suite. Vous êtes mère de famille, ben ça c'est super, mais surtout, depuis 4 ans et demi, vous êtes en technologie adaptée, puis vous avez fait des études dans ce sens-là.
Oui, tout à fait. J'ai fait en fait un baccalauréat en adaptation scolaire, ce qui me permet de pouvoir être une enseignante, hein, parce que c'est beau de connaître la matière. Si on n'est pas capable de la transmettre, on voit pas grand-chose. Puis en 2012, quand mes enfants étaient adolescents, alors pas la période la plus facile, je suis retournée sur les bancs d'école à l'Université de Montréal à distance, et oui, parce que j'habitais le Bas-Saint-Laurent à l'époque. Puis j'ai décidé de faire mon cours en réadaptation déficience visuelle pour devenir une spécialiste comme celle de ceux et celles qui sont dans les centres de réadaptation. Puis en revenant à Montréal, ben j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir un poste à INCA, ce qui est pour moi un des plus beaux postes pour l'instant de tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant.
Ben, bravo. Et on va, je dirais, puiser dans votre expertise, dans vos connaissances, puis aussi, vous avez une application pratique parce que vous avez donné un coup de main à beaucoup de gens. Et vous donnez des coups de main tous les jours à aider des gens à se dépêtrer. Puis, la première question qui me vient à l'esprit spontanément, là, c'est quel appareil choisir? Parce qu'il y a d'abord. Il y a deux types de systèmes d'exploitation. Il y a Apple puis Android. Par où commencer?
Ben en fait, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a comme pathologie ou comme difficulté visuelle, parce que souvent à basse vision, ben les gens ils vont aller plus vers Android parce que il y a des gammes de téléphones de plusieurs prix, hein, ce qui est moins un petit peu moins le cas pour Apple. Puis, ils ont une facilité pour agrandir sur l'écran qui est comme plus intuitif. Fait que souvent, les gens vont aller vers ça, mais en même temps, bon, dépendamment de si on a une dégénérescence ou pas, ça peut valoir la peine de réfléchir avant d'acheter un téléphone. Puis, c'est pas vos fournisseurs de téléphonie cellulaire qui vont vous
Non,
aider.
ça, c'est. Ils carburent à autre chose, voilà.
Oui, carbure au montant qu'ils vont faire avec vous.
Ils carburent au plan, hein, au contrat.
Oui, puis je vais en profiter pour inclure une petite info avant de statuer sur qu'est-ce que je préférerais ou non ou ce que je propose davantage. Ce qui est pour moi une des choses importantes à dire à ma clientèle, c'est que si vous avez une déficience visuelle reconnue et que vous allez vous chercher un forfait cellulaire, avec la plupart des compagnies, vous devriez avoir une réduction. Des fois, on vous demande une preuve, mais des fois, on vous la demande pas. Il y a des places où on vous la demandera pas. C'est le cas, entre autres, de TELUS. Puis c'est considérable. Hein, il faut vraiment y penser parce que ça peut aller jusqu'à 20 $ par mois sur votre
Oh,
facture.
de réduction sur notre contrat.
Oui,
Oh
c'est
là
bon
là.
juste pour les cellulaires. Donc, ça, c'est important de le savoir parce que des fois, mes clients, là, ils me disent, oui, mais pour Internet à la maison, puis là, 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 j'ai dit, non, non, c'est pour le
On parle de
cellulaire.
téléphonie cellulaire, on parle du
C'est ça.
téléphone intelligent qu'on a dans la main.
Oui. Puis, pour continuer à répondre à la question qui tue,
Ouais.
ben, moi, je vais privilégier l'iPhone. Pourquoi en tant que formatrice? Parce que l'iPhone, il y a un modèle. Hein, qu'on ait un 6,
Oui.
un 7, un 10, un 11, un 14, Ils sont tous bâtis sur le même principe. L'accessibilité est la même. Puis quand j'enseigne à quelqu'un qui a un iPhone 6, ben j'ai pas de problème à faire la même chose avec quelqu'un qui est en iPhone 14 au même moment.
Et au moment où le iPhone 6 va rendre l'âme, là, ou sera, va commencer à être obsolète, de passer toujours à l'intérieur de la même gamme, du même fabricant, ben on n'est pas dépaysé, alors que les applications Android peuvent être un peu différentes, dépendamment de qui a fabriqué le téléphone.
Ben, je dirais les applications, mais je dirais aussi les paramètres, parce que des fois, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Ouais, telle affaire, est-ce que tu sais si je peux le faire avec mon Google Pixel, par exemple, ou mon Huawei? » Puis là, je dis « Ben, écoute, premièrement, j'ai pas accès à chacun des modèles, fait que c'est difficile pour moi d'aller valider, puis bon, faire une recherche sur Internet, c'est toujours possible, mais c'est pas comme avoir le téléphone en main, fait que c'est difficile un petit peu de conseiller, puis malheureusement, là, avec Google, même s'ils sont pas pires, il y a beaucoup plus d'applications accessibles sur Apple que sur Android.
D'accord. Ben là, puis là, ça, évidemment,
c'est mon deuxième
parce que
point.
le téléphone, c'est une chose, puis son accès en fait partie. Mais évidemment, au-delà de ça, bien, on va télécharger sur notre téléphone toutes sortes d'applications, dépendamment de nos goûts, de notre façon de vivre. Des choses qui nous intéressent ou de nos besoins. Alors, de savoir que les applications Apple sont plus susceptibles d'être accessibles, ben, à la longue, ça fait une différence, ça, c'est sûr.
Oui. Puis quand on est en dégénérescence, ben, peut-être qu'il faut considérer le long terme. Fait que si on s'habitue sur Android, puis que, oups, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse le transfert vers Apple. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, hein, parce que on se réadapte constamment,
non? Oui, tout à fait. Là, vous me dites ça, puis moi, ça me fait mal au cœur parce que je fais de la rétinite pigmentaire, alors ma vision tente à se détériorer au fil du temps, puis ça fait des années que je suis sur Android, alors va falloir un jour que je me jette à l'eau.
On vous accueillera avec
on va travailler là-dessus. Quoi qu'il en soit, mais là, on parle de téléphone, mais il n'y a pas que les téléphones, il y a les tablettes, il y a les PC, puis là encore, il y a des nuances.
Ben oui, aussi. Bon, au niveau des PC, étrangement, hein, je vais favoriser Apple pour ce qui est cellulaire, mais au niveau du PC, je vais moins favoriser le Mac parce que le voice-over sur le Mac est très, très différent. Ça prend vraiment une formation très, très étayée pour pouvoir bien l'utiliser. Puis, par contre, au niveau du PC, ben on connaît les logiciels qui grossissent, là, comme le ZoomText ou le Jaws, qui nous permet de faire un petit peu comme le voice-over sur l'iPhone. Et ça, pour moi,
la technologie nous a rejoint.
Ben ouais.
Vous avez dit quelque chose, là, puis Apple veut lever la main. Oui, alors...
Effectivement. On n'a pas toujours le contrôle de ces bêtes-là.
Ils ont une personnalité, oui, c'est vrai.
Quand je commence mes formations, je leur dis qu'on s'en va apprivoiser la bête.
Exact,
pour être capable
tout à fait.
De la maîtriser.
c'est dans les quand vous faites des formations, c'est quoi les embûches les plus fréquentes qui finalement se résolvent le plus facilement? À part de trouver le bouton contact là, pour mettre l'appareil en marche.
Ouais, ben je pense que c'est ce qui est le défi, parce que moi je l'enseigne vraiment en mode sonore, puis ce qui est le défi pour la plupart des gens, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le focus de VoiceOver. Donc on touche à l'écran, puis même si on le voit pas, VoiceOver va encercler un endroit qu'on a touché. Puis ce concept-là est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui le voit pas. Puis de savoir qu'une fois que j'ai touché, que VoiceOver me l'a indiqué, que je peux faire mon geste n'importe où sur l'écran, c'est encore plus... je sais pas, on dirait qu'il y a faire de la difficulté avec ça. Puis là, à un moment donné, ben on a appris les gestes, on commence à les maîtriser de plus en plus. Puis c'est comme si... C'est un peu le principe de la bicyclette. Au début, c'est difficile. difficile, puis à un moment donné, oups, on part à deux
oui.
roues.
Ben, au début, pour ceux d'entre nous qui ont déjà fait de la bicyclette, au début, on brasse beaucoup le guidon, là, parce qu'on passe notre temps à corriger le chemin qu'on fait. Mais ça me fait penser aussi aux gens qui, pour appeler un ascenseur, ils vont pas appuyer une fois sur le bouton de l'ascenseur, mais ils vont appuyer continuellement ou à répétition, là, comme si l'ascenseur allait arriver plus vite. En appuyant,
malheureusement,
ben ça marche pas tout à fait comme ça. Souvent avec un écran avec des commandes tactiles, on devient un peu, je dirais, nerveuse. Puis on va commencer à toucher un peu partout, comme si chaque fois qu'on touche, on peut peut-être régler un problème, mais finalement on en crée d'autres.
Oui, parce qu'en plus, avec VoiceOver, comme on le sait, ce ne sera pas la même gestuelle que si on n'avait pas VoiceOver. Puis l'impact des doigts sur l'écran n'a pas le même effet. Hein. Si j'en mets un ou si j'en mets deux ou trois ou quatre, là, oups, il vient de se passer de quoi. Puis je pense que le plus gros défi, puis qui se résout parce que les gens ils comprennent assez vite, c'est d'être attentif, d'écouter vraiment, puis quand on n'est pas habitué avec le mode sonore, au début, ça nous tape même ses nerfs. Là. C'est trop vocal. Là. OK, c'est assez, tais-toi. Là.
Ouais.
Puis moi, je leur dis là, d'écouter vraiment comme il faut ce que VoiceOver vous dit. Ça va vous aider parce que ça va vous empêcher de faire des folies, d'ajouter des gestes parce qu'on a écouté et on sait ce qui s'est passé plutôt que j'ai pas écouté. Puis je vais essayer de faire de quoi puis ça m'aidera peut-être pas au bout du compte. Fait que tout ça, puis les gestes de VoiceOver impliquent un son, quelque chose de sonore. Donc, à chaque fois que je fais un geste, puis que j'obtiens quelque chose, j'ai un son différent. Et ça, au début, les gens ne réalisent pas.
Parce que finalement, c'est l'appareil qui nous donne un feedback, qui nous indique qu'on a passé dans un autre mode.
Oui, ou que j'ai ouvert une application, que je l'ai fermée. C'est tout des petits sons qui sont différents, qui me disent « Ah, là, j'ai une boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir ». Alors, c'est pas négligeable là, pour savoir ce qui s'est passé à l'écran, d'écouter.
Est-ce que les personnes qui vivent une adaptation, qui ont encore un résidu visuel, peuvent avoir tendance à tricher un peu?
Ah, ils sont durs, hein, mais je les appelle mes hybrides.
Oui.
Mes hybrides, j'aurais le goût des fois de leur dire pour apprendre, t'as pas le choix, je vais t'imposer d'activer le rideau d'écran, ce qui est un écran noir. Pour pas que tu vois ton écran parce que tu triches, puis parce que tu triches, tu n'apprends pas bien tes gestes.
Tout à fait. Ben, on s'adapte pas. Alors, quelqu'un qui a une maladie dégénérative, ça peut aider justement de se projeter dans le temps puis de couper complètement l'aspect visuel pour s'adapter à ce qui sera notre vécu dans un laps de temps X. Ben, Lynn, c'est tout pour aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup.
On va se reparler certainement au cours des prochaines semaines, prochains mois, pour fouiller un peu plus loin puis être un plus pointu dans notre découverte technologique.
Bon, mais c'est excellent. Alors, bonne journée à vous.
Merci.